Radio Kapi. Oh, Kapi.
Présenté par Belinda Bosuma, voici le sommaire. La situation sécuritaire dans l'Est de la RDC, au menu du sommet conjoint EAC-SADC qui s'ouvre aujourd'hui en Tanzanie. Le président Félix-Antoine Tshisekedi prend part, confirme sa porte-parole. La RDC attend de ce sommet notamment un cessez-le-feu immédiat et un retrait des troupes rwandaises et une remise de la ville de Goma à l'administration officielle. À Kinshasa, ces cas de vol à main armée qui prend de l'ampleur dans plusieurs quartiers de la capitale. Des groupes de bandits, dont certains membres munis d'armes à feu, s'illustrent depuis le mois dernier dans des attaques à domicile. Nous en parlons dans ce journal. Et puis, l'invité de ce midi, Sambo Kolombe, candidat député national invalidé par la CENI lors des législatives nationales de 2023 à Bassankoussou, rétabli par le parquet général près la Cour de cassation, Sambo Kolombe annonce qu'il va user de toutes les voies de recours pour notamment obtenir réparation. Madame, Messieurs, bonjour. Le sommet conjoint entre l'EAC et la SADC sur la crise sécuritaire qui prévaut dans l'Est de la RDC s'ouvre ce vendredi à Dar es Salaam, en Tanzanie. D'abord la réunion interministérielle aujourd'hui, avant le sommet proprement dit des chefs d'État demain samedi. Le président congolais Félix-Antoine Tshisekedi va bel et bien y participer. Selon Tina Salama, sa porte-parole, qui le confirme à Radio Kapi, le chef de l'État s'attend notamment au retrait immédiat de l'armée rwandaise du sol congolais. On écoute Tina Salama au micro de Grace Hamzati.
Oui, le président de la République va prendre une part active, en tout cas au sommet des chefs d'État et de gouvernement de la SADC, EAC, à ce sommet extraordinaire qui est organisé à Dar es Salaam. Alors, par sa participation, le chef de l'État s'inscrit dans la voie de la paix qui est tracée, vous le savez, par l'Union africaine et soutenue bien évidemment par les Nations unies. Et donc, nous, en tant que pays, où on va dire, au cours de ces assises, la RDC voudrait en tout cas mettre... au-delà de toutes nos revendications, également, l'EAC devant ses responsabilités en ce moment où le Rwanda, membre de l'EAC, a envahi la RDC, un autre État membre de cette institution. Alors, ce que la RDC attend de ce sommet, c'est en tout cas un cessez-le-feu immédiat, une condamnation claire de l'agression, un retrait, bien évidemment, des troupes rwandaises et une remise de la ville de Goma à l'administration officielle. Et aussi, ce qui est très important pour des raisons humanitaires, la réouverture de l'aéroport de Goma pour des raisons d'évacuation médicale et approvisionnement en appui humanitaire de tous ordres.
Et profitant du sommet conjoint EAC-SADC qui se tient aujourd'hui et demain en Tanzanie, Amnesty International appelle à un leadership régional pour prévenir des nouvelles atrocités et amener les responsables présumés à répondre de leurs actes. Plus de détails avec Jeff Ngoy Mulonda.
Ce sommet spécial sur la situation très grave en République démocratique du Congo n'a que trop tardé. Les conséquences catastrophiques sur les droits humains du conflit armé dans le pays n'ont que trop duré. Aujourd'hui, des centaines de milliers de femmes, d'enfants et d'hommes sont de nouveau contraints de fuir les combats, endurant des conditions désastreuses et tentant désespérément d'échapper à la mort, déclare Agnès Kalamar, secrétaire générale d'Amnesty International. Selon Amnesty, les États et les organisations intergouvernementales, notamment la Communauté d'Afrique de l'Est, la Communauté de développement de l'Afrique australe, l'Union africaine, les Nations unies et l'Union européenne, doivent intensifier leur engagement en ce moment décisif, dénoncer ceux qui rendent possibles les attaques se déroulant à Goma et au-delà, et faire clairement savoir que tous les responsables présumés de ces atrocités devront répondre de leurs actes dans le cadre de procès équitables. Il est grand temps, d'après cette ONG, de faire en sorte que les auteurs du crime relevant du droit international commis en RDC depuis près de 30 ans rendent des comptes.
Ce sommet des chefs d'État de l'EAC et de la SADC est très attendu par la population du Nord Kivu, en particulier celle de Goma, pour tenter de résoudre la crise du M23 soutenue par le Rwanda. Les avis sont partagés sur le schéma vers une conclusion à cette crise. La population dit attendre impatiemment une solution, même si c'est par le dialogue, pourvu que les rebelles se retirent et que la vie reprenne normalement. Pour certains, ce dialogue entre chefs d'État et le NIM et rien de concret ne pourra en sortir. Ça sera toujours des déclarations d'intention sans sanctionner le vrai agresseur, a déclaré sous anonymat un acteur sociopolitique de Rutshuru. D'autres personnes pensent que le schéma politique n'aboutit qu'à une solution de courte durée et le problème va rester entier. Pour cet habitant de Goma, la solution militaire reste nécessaire pour en finir avec cette crise. Suivant tour à tour une représentante des organisations féminines du Nord Kivu et un acteur de la société civile locale, joint par Sifa Maguru.
Pour les femmes du Nord Kivu, nous sollicitons deux choses. D'abord, l'établissement de la responsabilité par rapport à tous les crimes qui ont eu lieu dans la ville de Goma. Les chefs d'État doivent se pencher sur tout ce qui s'est passé dans la ville de Goma et prendre des mesures urgentes afin de rétablir la paix dans la partie est de la République démocratique du Congo. Ça, c'est une priorité pour nous. Nous exigeons également que l'on réfléchisse par rapport à toutes ces personnes déplacées internes qui sont maintenant dans l'errance. Nous avons vu des enfants, des mamans qui ont péri, n'est-ce pas, pendant ces hostilités qui ont eu lieu dans la ville de Goma. Nous sommes en train d'exiger que la paix revienne et que la ville de Goma soit dirigée, comme on le sait, par un gouvernement bien établi qui est reconnu par l'État congolais.
On n'a pas besoin de beaucoup de choses, nous avons besoin de la paix. Comme le président avait promis qu'il va réagir avec une forte force, là nous sommes derrière cette idée. Nous voulons que ces rebelles d'abord libèrent la ville de Goma dans l'urgence avant toute autre chose. Donc nous demandons aux membres de la SADC, aux membres de l'EAC, de faire tout pour tout pour demander à ces terroristes du M23 de libérer notre ville.
Rappelons que la population de Goma demeure désemparée face à toutes les exigences et mesures prises par l'administration parallèle mise en place par les rebelles. Pendant ce temps, une psychose domine la majeure partie des habitants de Bukavu depuis l'annonce de la chute de Niabibwe, qui constituait l'un des verrous importants des FARDC dans le territoire de Calais et au sud Kivu. Certaines écoles et universités ont interrompu leurs activités à partir de ce vendredi jusqu'à nouvel ordre. Des maisons de commerce ont fermé, celles qui fonctionnent encore restent très vigilantes. Reportage de Jean Kassami.
Dans la ville de Bukavu, chacun veut se rassurer que toutes les dispositions sont prises pour épargner les siens de toute éventualité. La présence des rebelles M23 est signalée dans les localités de Bushushu et Nyamukubi, environ 15 km d'Youssi, Calais et Centre.
La situation n'est pas du tout stable. Les gens vraiment sont frustrés.
Il s'observe une grande psychose à Bukavu. Je vois que toutes les universités n'ont pas ouvert leurs portes aujourd'hui. On demande aux élèves à ce qu'ils soient en examen, qu'ils retournent à la maison aussitôt après. Et alors les gens sont un peu prudents par rapport à ce qui s'est passé à Goma. Ils sont en train de fermer leurs marchandises et aller les cacher, soit à la maison, soit quelque part.
D'autres habitants de la ville de Bukavu demeurent sereins, reposent leur espoir dans la contre-offensive déclenchée par les FARDC.
C'est la population elle-même qui est en train de paniquer les autres. Certains commerçants sont en train de vider leurs dépôts. Et ils amènent leurs marchandises à la maison. Les autres sont en train de ne plus faire les activités calmement.
Déjà, plusieurs familles qui le peuvent se constituent des provisions en vivres, en eau et en médicaments. Jean Kassami, Radio Okapi.
Du côté de Bounia, en Ituri, tous les responsables des structures locales sont appelés à redoubler de vigilance en dénonçant tout suspect qui cherche à déstabiliser l'est de la RDC. Appel lancé ce vendredi par le bourgmestre de la commune de Bounia. C'était lors d'un meeting populaire pour la mobilisation de la population contre l'agression rwandaise et son allié le M23. Cette autorité municipale demande aux jeunes d'intégrer l'armée ou la réserve armée pour la défense en vue d'appuyer les FARDC. Le compte-rendu de Isaac Remoyope.
Des centaines de personnes composées essentiellement de jeunes ont répondu à l'appel du bourgmestre de la commune de Mbunia. Dans son discours, il a demandé à tous les habitants de s'impliquer pour faire échec à l'ennemi en dénonçant les suspects, mais aussi de s'engager dans l'armée ou la réserve armée pour la défense RAD. Jean-Marie Fouamba.
Nous avons rappelé à la population de dénoncer toute présence étrangère afin que l'on puisse prendre les dispositions.
Pour les directeurs de la RAD, les différentes communautés doivent bannir les clivages ethniques et s'unir pour combattre les ennemis communs ADF et M23. 2023. Les personnes de bonne volonté doivent aussi soutenir les efforts de guerre, notamment des réservistes en formation cité de Diango, le colonel Emmanuel Libandi.
Le moment est grave et très critique. Il y a un mouvement de jeunes qui voulaient adhérer à la RAD. Je fais d'abord appel à nos commerçants, ceux qui veulent que la paix puisse rester toujours dans notre pays.
De son côté, le Parlement des jeunes de l'Ituri invite les jeunes à se désengager des groupes armés pour défendre le pays et au gouvernement de mettre des moyens conséquents pour former et équiper ses volontaires. Gloire Abbassi, son président.
Il y a déjà les jeunes qui sont prêts à adhérer. Nous n'avons pas besoin de perdre un jeune pour aller dans les groupes négatifs ou encore de servir des pots avec les M23. L'appel est au gouvernement accompagné.
Les mécanismes d'alerte précoce sont renforcés presque dans tous les quartiers de la ville de Bounia pour garantir la sécurité, indique le bourgmestre de Mbounia. Bounia, Isaac Remoyope, Radio Okapi.
Je vous le disais en titre, à Kinshasa, parlons de ces cas de vol à main armée qui prend de l'ampleur dans plusieurs quartiers de la capitale. Des groupes de bandits, dont certains membres munis d'armes à feu, s'illustrent depuis le mois dernier dans des attaques à domicile. Mais pas que cela, ils s'en prennent aussi à certains sites de vente ou d'activités commerciales. Le dernier cas a eu lieu mercredi sur l'avenue Monkoto, dans la commune de Ngiringiri. Bilan, une importante somme d'argent emportée. Des détails dans ce reportage.
Il est 7h du matin, mercredi, lorsqu'un cambiste qui vient de retirer de l'argent garde son véhicule devant sa maison de vente sur l'avenue Monkoto direction Chaba dans la commune d'Ngiringiri. Aussitôt, deux personnes armées de fusils en tenue civile qui semblaient l'avoir filé descendent d'une moto et pénètrent à grands pas dans son shop. Ils intimident les personnes présentes et emportent le sac d'argent à peine sorti du véhicule tout en tirant des coups de feu en l'air. Dimanche dernier, un braquage a échoué au supermarché qui marchait au quartier Ngilima à Matete, faisant deux morts et deux blessés. Le 22 janvier, au moins quatre habitations et une boulangerie ont été visitées par des bandits armés au quartier Molende et Bikinda dans la commune de Selembao. Une femme a été violée et des biens de valeur emportés. En décembre, des cas d'attaque à main armée ont aussi été enregistrés au quartier CPA Mouchi Amboudi. Contacté, le commissaire provincial de la police estime que la situation est meilleure qu'il y a quelques mois. Et pour lui, la lutte contre la criminalité se poursuit. Mais il faut noter que dans toutes les grandes villes, la criminalité zéro n'existe pas.
C'est un reportage de Trio Banzé. Dans l'actualité aussi, trois personnes égorgées et tuées par des miliciens Mobondo dans la nuit de mercredi à hier jeudi dans une ferme située à 1 kilomètre du village de Mongata sur la nationale numéro 17 dans la commune de Maluku à Kinshasa. Selon le député provincial David Bisaka, les victimes sont toutes membres d'une même famille. Les corps ont été transportés jeudi par les villageois sur des nattes et emballés dans des pagnes pour inhumation. Pour l'instant, plusieurs véhicules en provenance de Kinshasa sont bloqués à Mongata. À cause de l'insécurité, rapporte la même source, l'élu de Kwamout condamne ces actes et alerte sur la présence des miliciens le long de la nationale numéro 17 où ils opèrent. On écoute le député provincial David Bisaka au micro de Irène Bouma.
Je tiens à exprimer ma profonde tristesse face à la nouvelle attaque des miliciens Mobondo qui a encore adhéré notre communauté. Mercredi à 23h30, une ferme située à 1 km de Mongata a été attaquée. Il y avait 4 personnes sur place, une femme et 3 hommes. La femme qui prenait sa douche derrière la maison a remarqué la présence de miliciens et a réussi à s'échapper. Les miliciens ont alors égorgé les 3 fermiers. Cette ferme est située sur la route nationale numéro 17 dans la commune de Maluku. Mais cette route-là va jusqu'à Banunuvi, ça traverse mon territoire de Kwamutu. Et tous les véhicules en provenance de Kinshasa pour Bandundu, Masiambio sont bloqués à Mongata car ils ne savent pas où se trouvent ces miliciens. Les Mobondo ont réussi à contrôler l'espace entre Mongata jusqu'à au revoir Maluku. Je demande au VPM de la Défense d'autoriser des opérations de ratissage dans les zones où les Mobondo sèment la terreur.
Direction la province Yokatanga. Les travaux de réhabilitation de la route Kasenga sur le tronçon Kasomeno-Kasenga se poursuivent. Selon l'administrateur du territoire, cette route est d'un grand intérêt pour l'évacuation notamment des produits agricoles vers le principal centre de consommation qu'est la ville de Lubumbashi. Écoutons plutôt Barthélémy Kabuita, administrateur du territoire de Kasenga, joint par Jean Gandou.
avec l'entreprise JIT Congo et la sous-traitance chinoise CCSC, les travaux évoluent normalement. Les tronçons aménagés sont de 75 km. Au moment où je vous parle, les travaux sont à 20 km d'aménagement. Et l'entreprise JIT Unis a fait des caniveaux pour l'acheminement des eaux de pluie.
Mimas, on commence maintenant l'asphaltage de Kasomeno Kasinga.
Vous devriez savoir que la route est à vocation agricole. Kasinga nous produit du riz, du maïs, le haricot, l'arachide, le manioc et tant d'autres. Vous savez, dans l'ancien temps, la route connaissait des rendez-vous là où on faisait un, deux, voire même trois jours pour arriver à Lubumbashi. Aujourd'hui, nous faisons 4 à 5 heures de temps pour atteindre Lubumbashi. Lubumbashi qui est le centre d'évacuation de nos produits. Et bientôt, quand on aura fait l'ouverture de lacs et des rivières dans la province du Haut-Katanga, on aura aussi à évacuer aussi des poissons salés, poissons fumés, voire même frais, vers Lubumbashi.
Actualité internationale.
Le bloc régional de l'Afrique de l'Ouest, connu sous le nom de CDAO, est confronté à d'importants défis, ce après que 3 pays dirigés par une junte ont officiellement quitté le groupe, formant leur propre alliance et affaiblissant la position et l'autorité politique du bloc. Le retrait du Mali, du Niger et du Burkina Faso de la CDAO, qui ne compte actuellement que 12 pays membres, et l'aboutissement d'une année de pourparlers et d'efforts diplomatiques visant à les faire revenir sur leurs décisions annoncées en janvier 2024. Ces départs sont les premiers de ce type en 50 ans d'histoire de la CDAO et les analystes avertissent qu'une CDAO plus faible pourrait fragiliser davantage une région de plus en plus fragile.
L'invité.
Comme annoncé ce midi, nous recevons Sam Bokolombe, candidat député national, invalidé par la CENI lors des élections législatives nationales de 2023 à Bassankoussou, dans le Grand Équateur. Il est l'un des 81 candidats accusés par la CENI de fraude électorale. Le parquet général près la Cour de cassation s'était saisi du dossier. Après ses enquêtes, il a écrit aux concernés pour lui signifier que ce dossier est désormais classé sans suite, faute des preuves. Sam Bokolombe annonce qu'il va user de toutes les voies de recours pour être réhabilité dans ses droits et obtenir réparation pour les dommages subis. Il s'entretient avec Jeff Ngoy.
Professeur Sam Bokolombe, bonjour.
Bonjour.
Comment vous vous êtes retrouvé parmi les gens qui ont été disqualifiés par la CENI?
C'est ce que je veux dire. C'était le 5, pendant qu'on attendait la proclamation des résultats. Et on m'appelle pour me dire qu'il y a des gens qui ont été invalidés. Et mon correspondant me dira, vous faites partie de ces gens-là. Quoi? Moi invalidé? Qu'ai-je fait? Et c'était parti. Et le lendemain, j'ai adressé un recours gracieux pour dire à la CENI, je crois que vous êtes trompé. Il y a erreur dans ce que vous venez de faire là. Moi, je n'ai rien fait.
La CENI parlait de fraude électorale et après l'avoir saisie, quelle a été sa réponse?
La CENI n'a pas répondu. En fait, des griefs qu'on m'a fait lire, c'était incitation à la violence contre les agents de la CENI, les actes de vandalisme, c'est-à-dire des actes de destruction méchante, les actes de subornation, des actes de corruption et de fraude électorale. Ouais, il y en a même qui ont poussé le bouchon trop loin en parlant des détentions, des dispositifs électoraux, des machines, quoi. Je ne sais pas d'où ça sort. Et contrairement après, à d'autres, puisqu'il y a un autre candidat qui était dans le coup, hein, qui est également concerné parmi les 82, et bien, la CENI a répondu à sa requête et le monsieur a été tiré d'affaire.
Alors, après cette étape, vous n'avez pas entrepris d'autres démarches?
Mais non, pourquoi pas, puisque après cette étape, j'attendais l'ouverture de contentieux électoral devant la Cour constitutionnelle. Ma composante à l'IEMLC a introduit une requête en contestation des résultats et la Cour constitutionnelle n'a pas voulu dire le droit. La Cour constitutionnelle a estimé que la CENI n'est pas compétente pour invalider. Mais plutôt que d'aller jusqu'au bout de sa logique, non, qu'elle ne peut pas examiner le fond de l'affaire parce qu'il n'y a pas de résultat. Alors, j'ai saisi le Conseil d'État après.
Et partout là-bas, vous avez été débouté.
Je n'ai pas été débouté par le Conseil d'État puisque l'instance est pendante. Mais, en même temps, comme vous avez tous suivi, le parquet s'était saisi de l'affaire. J'étais très content de voir le parquet sauter sur l'occasion puisque ces faits-là sont infractionnels.
Maintenant, le parquet a après avoir enquêté, vous écrit aujourd'hui pour vous signifier le classement sans suite. Est-ce que vous en êtes satisfait?
Évidemment.
De vous blanchir en quelque sorte.
Satisfait. Ah, en quelque sorte, blanchir. blanchir, de toute évidence. Pourquoi? Parce que quand la CENI, en toute incompétence, invalide, c'est sur base de présomptions, sur base de certains faits présumés, n'est-ce pas? Maintenant, le parquet qui instruit et qui dit que vous êtes hors de cause, qui vous dit que cette affaire est classée sans suite, donc les faits mis à votre charge ne sont pas établis, donc l'affaire est classée sans suite pour faits non établis. Vous êtes blanchi. Alors, là, moi, je pose des questions. Puisque ces faits ne sont pas établis, sur base de quels faits la CENI avait invalidé bureau de vote? C'est toute la question. Et cela atteste du fait que l'acte posé par la CENI était un acte gratuit et cynique, puisqu'il fallait nuire, il fallait porter atteinte à mon honneur, à ma réputation.
S'agit-il d'une dénonciation calomnieuse? Qu'envisagez-vous de faire pour être réhabilité?
Il y a plusieurs possibilités de droit que je peux utiliser. Il y a d'abord cette option du Conseil d'État en annulation de l'acte de la CENI et en réparation des préjudices. Ça court. Il y a une autre possibilité, réclamation des dommages intérêts à l'État et à la CENI in solidum. Et en plus, il y a une autre possibilité, et je suis en train de réfléchir à la manière d'y aller. C'est ce que vous venez de suggérer là. Il n'y a pas eu dénonciation calomnieuse puisque je n'ai pas été dénoncé auprès d'une quelconque autorité, mais il y a eu des imputations dommageables. On m'a imputé des actes de vandalisme que j'ai jamais commis, ni d'Adam ni d'Ève. On m'a imputé des actes de fraude et de corruption.
Vous étiez 82, vous êtes resté 81.
Ouais.
Mais pourquoi c'est seulement Sam Bokolombe qui reçoit une lettre du procureur pour lui signifier le classement sans suite?
Vous auriez dû demander à la CENI pourquoi seulement avoir répondu à Kalombe et pas au reste des personnes invalidées. Je voudrais vous dire ceci, juste une réponse de principe. La responsabilité pénale est individuelle.
Maintenant que l'affaire est complètement close au niveau du Parlement, on ne peut plus vous réhabiliter puisque vous n'avez pas été proclamé élu. Il s'agit juste d'une élection annulée.
Écoutez, oui. Le contentieux électoral n'a pas de délai de prescription. Quel que soit le moment où on découvre des faits qui impactent le scrutin,
on peut
reconsidérer les choses. Mais le problème ici, c'est quoi? La centrale électorale a posé des actes de délinquance en détruisant les résultats. La décision du parquet général après la Cour de cassation honore la justice. Et je vais en tirer toutes les conséquences de droit par rapport à l'État congolais et par rapport à la CENI, égard au préjudice subi. Donc je vais utiliser toutes les voies de droit et je ne lésinerai sur aucun moyen.
Merci.
Voilà, c'était là notre invité Sam Bokolombe, candidat député national. Il répondait aux questions de Jeff Ngoy. Par ici prend fin ce journal coordonné par Jude Mister Bilanda à la mise en onde d'Eps Vita. Merci d'avoir été des nôtres.